Êtes-vous fan fini d'une équipe, d'un artiste, d'un acteur, d'une actrice, de idéalement pas quelqu'un dans votre milieu de travail, parce que là, c'est peut-être un petit peu...
Là, ce serait louche. On pourrait appeler ça du harcèlement.
Dangereux. Puis votre côté fan va jusqu'où? Puis qu'est-ce que ça vous apporte? Puis là, tu sais, on est au lendemain du Super Bowl. Il y a des gens qui sont fans de leur équipe, qui est à payer des gros montants. Il y en a qui avaient décoré leur salon au grand complet. Je voyais du monde sur les réseaux sociaux, là, c'était toute leur gear de leur équipe, que mon Dieu, c'est donc mal fun. Vous avez peut-être vu Bradley Cooper hier.
Oui.
Bradley Cooper, dans plusieurs de ses films puis dans sa vie personnelle, il ne se l'est jamais caché. C'est un fan fini des Eagles de Philadelphie. Puis hier, il a réalisé un rêve. Il a pu présenter son équipe en début de match. C'est quoi être un fan? Qu'est-ce que ça nous apporte d'idolâtrer quelqu'un? On trouvait que le sujet était franchement intéressant, puis il nous a été proposé par notre amie et collaboratrice psychiatre Caroline Gagnon, qui est en studio avec nous. Salut, Caro!
Salut!
T'es-tu fan de quelque chose?
Du boulevard 102,1 FM. C'est pour faire un clip, là, tu sais, un petit clip.
Oui, c'est parfait, on va mettre ça dans l'image.
On utilise ma voix, c'est ça. Bien sûr que je suis fan de plein de choses. Je suis fan de séries. J'ai adoré Lost et Compte. En sixième année, Pierre Lambert, c'était mon premier fantasme.
Ah, pas vrai?
Oui, je tripais dessus, il était frisé.
Ouais, Carmara, t'étais cute.
Oui, mais en tout cas, pour moi, c'était beau dans ces années-là. Là, Max, me regarde, je sais que t'étais pas née à ce moment-là, mais c'est une série qui était culte.
Puis, on en parlait le lendemain matin à l'école. Là.
Oui, puis on ne pouvait pas enregistrer tout le temps. On n'avait pas de magnétoscope à l'époque. Donc, c'était vraiment précieux, cette série-là. Des livres, on peut être fan de nourriture, on peut être fan d'une chaîne de restaurants, on peut être fan de plein de trucs. Donc, l'idole, ce n'est pas nécessairement un être humain. Parfois, oui, mais pas tout le temps.
OK, de cette façon-là, je trouve ça un peu plus sain, parce que moi, j'allais te demander, est-ce que c'est important d'idolâtrer, d'admirer quelqu'un?
Est-ce que c'est important? Non, mais ça peut nous aider dans la vie.
Moi, ça arrive. Ça arrive chaque fois que je passe devant un miroir. Là.
T'es fan de toi-même?
Bon, ça, c'est une autre dimension de la personnalité.
Si on parle de narcissisme ici, là.
Si seulement j'avais des criquets.
C'est Narcisse qui avait un miroir, là, tu sais, qui se regardait dans l'eau, hein, qui est tombé dans l'eau. Bon. Mais on peut être. Il y a plein de sources d'admiration possibles. Un fan, c'est un admirateur qui est passionné. C'est quelqu'un qui est passionné de quelque chose. On ne choisit pas vraiment. C'est la passion qui nous choisit. T'sais, si on aime, je sais pas. J'ai lu un article, Nutella, il y en a qui étaient fans de Nutella. Fait que c'est juste ça qu'ils mangeaient le matin. Mm. Ben, c'est un autre exemple d'être fan. T'sais. Ça dépend vraiment de nos sources là, de stimulation.
À quel moment on passe de quelqu'un qui apprécie à quelqu'un où ça devient maladif, justement, ce côté fan-là?
Ouais. Ben, le côté fonctionnement. Si je suis pas fonctionnelle aujourd'hui parce que là, je suis trop sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des influenceurs qui sont des idoles maintenant, on a cette réalité-là. Si je passe ma journée sur un fil et que je regarde toujours qu'est-ce qui fait la personne, là, ça devient... Si je suis pas fonctionnelle, c'est pas très, très intéressant là, d'être fan à ce moment-là.
Mais pour quelqu'un qui est fonctionnel, ça apporte une récompense de suivre quelque chose ou de consommer quelque chose.
Oui, ça apporte un sentiment d'appartenance.
Ah, carrément.
Parce que maintenant, je sais que si on est fan les quatre d'un groupe, mais je vais le savoir parce qu'on va être sur le même réseau social. Fait que vous allez être comme mon groupe d'attachement, comprenez-vous? Donc, c'est pas juste l'idole comme le groupe, la communauté autour de...
On se comprend.
Oui, c'est ça. Mettons, festival d'été, on s'en va tous voir le même groupe, on se rejoint au coin d'une rue. Puis là, on est content. C'est notre groupe. Il y a quelque chose là, qui nous fait vibrer là-dedans.
Vu que c'est rassembleur, vu qu'on peut partager.
Ça l'a peut-être mis de la motivation dans mon été de savoir que j'allais là. Ou dans mon hiver. Ça peut m'aider à garder comme l'intérêt ou si j'ai tendance à déprimer, ben je vais me trouver des sources d'intérêt. Puis ça peut arriver que des idoles comblent ce besoin.
Mais c'est pas des fois un peu, là je vais utiliser ce mot-là qui est clairement pas le bon, là, mais c'est tout ce qui me vient en tête, le psychopathe. C'est pas un peu, tu sais, des fois, OK, je te donne un exemple. Quand il y a eu la quand Taylor Swift est venue à Toronto, le puis fait, bon, terminer sa tournée, puis
elle,
le monde
était
exactement.
Non, c'est la fille est décalée.
C'est la fille qui s'est fait tuer hier au Super Bowl.
Je l'ai vu, l'extrait.
Quand elle est venue en tournée, bon, elle était là deux soirs, puis là, TVA, puis tous les médias faisaient des grandes entrevues avec les fans de Taylor Swift. Et t'en avais des complètement psychopathes qui connaissaient tout sur sa vie puis qui la suivaient, tu comprends, au doigt et à l'œil. Pour moi, on dirait que idolâtrer quelqu'un, c'est un peu malsain.
L'intensité. C'est ça, Audrey. C'est l'intensité de la personne à aimer quelqu'un. C'est sûr que si cette personne-là passe des heures et des heures, c'est particulier. Là, il y a un déséquilibre. Mais si, en préparant, je sais pas, tu vas voir le show à Toronto puis t'écoutes sa musique pour te préparer ou t'aimes lire des trucs sur elle, c'est bien correct, là. Fait que ça va dépendre de l'intensité. C'est dangereux quand quelqu'un est intensément vers une personne.
Je pense que je suis dangereux avec Machine Gun Kelly.
Je pense que
tu es limite.
On va faire une
analyse. Si je suis pas dangereux, je suis proche de la limite.
Bien, tout dépend de l'intensité que ça a dans ta vie. Qu'est-ce que ça cause comme conséquence? C'est comme si ma famille disait, Caroline, on ne la voit plus depuis qu'elle a lu sur Freud, elle tripe dessus, puis elle ne veut plus être
avec
nous.
Elle n'a plus contact avec la réalité.
Oui, ouais. C'est complètement hors circuit. Bien, ça, ça ne serait pas adéquat. Ça serait comme, bon, ben là, je ne suis plus avec mon monde réel. Je suis dans le monde irréel un peu.
Oui, parce que ce côté-là, très intense et très groupie, c'est toujours quelque chose que je n'ai pas compris.
Dans l'intensité, bien, il y a un manque d'identité à l'intérieur de l'être humain.
OK, c'est ça que je cherchais à comprendre.
Un adolescent, ça se cherche comme identité. C'est normal
c'est
que
c'est souvent
ça...
cette période-là où oui. On va se mettre à idolâtrer des artistes.
Un peu plus. Puis... Oui, on va le faire plus parce que ça vient nourrir notre identité, qui je suis. Bon, j'aime cette musique-là, fait que là, je m'habille pareil, puis je fais des danses, puis ci, puis ça, puis bon, je m'inspire du groupe pour ma vie parce que je ne sais pas encore qui je suis. Mais plus tu grandis, plus tu connais tes goûts, qui tu es, puis là, tu commences à sélectionner des choses. Puis tu peux avoir plus qu'un idole. N'avoir juste un, très intense, un peu dangereux.
Quand tu parlais de à l'adolescence où on se cherche beaucoup, moi, oui. Je me souviens, moi, c'est à l'adolescence que j'ai connu Jim Morrison, le chanteur de oui. The Doors. Jim Morrison, c'est un gars qui a eu une vie absolument tout croche. Il avait une très mauvaise hygiène de vie. Ça s'est terminé avec une certaine fatalité. Oui. Ma mère n'a pas eu le choix d'avoir le fameux talk en me disant, tu sais que l'idole, la personne que tu admires, c'est pas nécessairement quelqu'un de sain. Puis là, je pense, il y avait le gars de One Direction qui est décédé il y a oui. quelques mois
oui,
à peine.
Oui, on l'a vu, ben oui, oui.
T'sais, ces conversations-là de oui. suivre ce que nos ados apprécient pour justement oui. être capables de ramener un peu de réalité à travers tout ça.
Oui, on n'enlève pas la flamme qu'ils ont, mais on va expliquer des choses. On va ajouter peut-être des infos que les ados n'ont pas. Mais on ne dira pas un ado, ne fais pas ça. N'aime pas, par exemple, ce groupe-là. On ne va pas dire de ne pas faire quelque chose, mais on va expliquer pourquoi. C'est qui cette personne-là, au-delà de qu'est-ce que l'ado est au courant, là, s'il ne connaît pas la personne. Il y en a qui ont fait des crimes puis qui sont connus, puis que les ados ne le savent pas. Donc là, c'est quoi l'influence de cette personne-là? C'est notre travail en tant qu'intervenant, parent, oncle, tante, ou peu importe, là, quelqu'un qui est près des ados, ça peut être notre travail de faire ça.
Parce que des fois, j'ai l'impression que ça peut être épeurant. Tu sais, là, on parle de musique, puis mais je vais changer un peu de catégorie. On oui. parlait d'influenceurs. Je pense oui. à un gars comme Andrew Tate,
oui.
qui est idolâtré de la gente masculine un peu plus jeune de façon excessive à certains niveaux. Là.
Oui.
Mais c'est parce que ce genre de
modèle-là,
de modèle-là est peut-être pas la chose la plus saine pour un jeune garçon qui essaie de grandir dans la société puis qui oui. se connaît pas trop. Tu sais.
C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu notre travail de parents, d'accompagner toujours, puis d'aller voir c'est quoi. Si vous ne connaissez pas la personne qui fait du contenu, des fois, on ne les connaît pas tous, les influenceurs, bien, juste de demander, hey, montre-moi, je veux regarder avec toi. Au moins, vous intéresser comme parent. Puis après ça, amener une critique, mais constructive à l'adolescent. Ça serait ça que je donnerais comme conseil.
C'est-tu le reflet de quelque chose qu'on n'a pas?
Un manque, oui.
Sûrement. Sûrement qu'il y a quelque chose. Si je suis inspirée par quelqu'un, c'est parce que j'ai l'impression que moi, je n'ai pas cette affaire-là. Je l'ai peut-être en moi, mais... Si je vois quelqu'un qui a de l'audace, par exemple, ou qui est original, ben j'ai peut-être le goût d'être plus original que je le suis dans la vraie vie. Donc, peut-être que ça va m'inspirer à être une personne différente. Et ça, c'est pas négatif, être inspiré. C'est pas comme copier quelqu'un. Je peux être inspirée par votre travail ici, alors que je vais pas faire pareil à vous.
Tu commenceras pas à t'habiller comme Max Larouche, là.
Non, c'est ça. Mais je
te le souhaite pas, Caro.
Non. Non, mais son côté relax en ondes peut m'inspirer comme, wow, regarde, on est relax, on parle, tout ça. Chacune des personnes qu'on croise peut nous inspirer en quelque part.
Mais c'est pas le fait de pas s'accepter un peu à quelque part, tu sais, de... Parce que j'ai beau être inspirée, mettons, par la tranquillité de Max, je vais toujours être paquet de nerfs, tu sais.
C'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître au travers de ça. Puis il y a des choses qu'on va apprendre à se connaître, on va dire, ouais, ça, en moi, je l'ai comme, tu sais, je suis faite comme ça, je peux pas trop changer. Mais j'ai-tu le goût de changer quelque chose de plus? Peut-être que oui. Donc, ça va dépendre. Je vous fais un petit quiz, OK? Au Québec, il y a deux personnes qui sont vraiment à la tête d'être les idoles des Québécois. Domaine politique, pensez à un boulevard.
Hein?
À Québec.
René Lévesque.
Oui! C'est le premier.
C'est celui à Max. Oh,
c'est la première ouais. personne. Oui, 16,9% des Québécois sont...
Encore ouais. fascinés par oui. René Lévesque.
L'autre, on va dans le domaine de la musique, de la chanson.
Moi, je pensais qu'elle allait dire Ricardo, tu vois.
Ah mais... non, Ricardo, il est sûrement là, mais pas...
dans Céline?
Céline.
Ah, il n'y a pas de surprise là-dedans. Non,
donc, Céline, la petite fille du Québec qui va faire sa carrière, qui est talentueuse, qui reste elle-même.
Mais tu sais, encore là, moi, ça me fascine. Tu peux apprécier ce qu'elle fait, tu peux l'admirer, oui. Mais moi, de voir des gens qui s'en allaient à Vegas puis qu'elle allaient pleurer en première rangée, moi, ce bout-là, je le comprends moins. Là.
Ça, c'est le fan fini. Ça, c'est le fan plus. Donc, il va avoir des larmes. Elvis Presley, on voit les vidéos des fois.
Les filles tombaient dans les pommes,
pleuraient. Hurler. L'émotion.
Cette émotion-là. Ça aux femmes aussi.
Oui, oh, ça ne doit pas être évident.
Ça explique tellement de choses.
C'est ça. Oh là là. Mais si, savez-vous, c'est un excès d'émotion, ça. Une émotion qui n'est pas canalisée, ces pleurs-là. Ce n'est pas parce que les personnes ont de la peine, évidemment. C'est de la joie, c'est de la fébrilité, mais c'est justement là que ça devient un petit peu déséquilibré. Quand on voit que quelqu'un, c'est sa vie, Elvis, par exemple, à l'époque, et que là, de le voir, c'était une finalité.
Tu sais, on le voit, entre autres, avec les équipes sportives. À peu près 6 fois par année, tu vas avoir quelqu'un qui va nous présenter sa man cave aux couleurs de son équipe préférée. Puis t'es comme... Mais à un moment donné, c'est irrationnel.
Bon, ce que tu dis, Véro, c'est le fun. Il y a l'idole, mais il y a aussi les objets.
Oui.
Représentants. Tu sais, c'est le Canadien. C'est... Bon, la personne arrive, puis elle aime investir, acheter. Dans le temps de la pandémie, on était beaucoup en ligne.
Oui.
Il y a des collectionneurs qui achetaient des trucs là, par rapport à leur idole. Et c'était plus élevé. Le nombre de fans en pandémie, c'est intéressant. Là, quand on était beaucoup dans le monde
virtuel. Qu'elle achète une mèche de cheveux, puis un vieux T-shirt. Puis...
Oui, exactement. Ou c'est ça, un vêtement qui a été porté là, par quelqu'un de connu au côté sport. Là. Donc, on a vu ça beaucoup être encore plus élevé en pandémie. Ça veut dire qu'on cherchait à se motiver. On cherchait quelque chose pour se remonter un peu parce qu'on ne savait pas trop. C'est-tu la musique, les sports, tout ça, mais c'est ça.
Donc, fait que c'est positif à la base, mettons, le fait d'admirer, d'idolâtrer.
C'est ça. C'est idolâtrer, quand on le dit, on dirait qu'on le sent que c'est trop.
Ouais.
On dirait que c'est beaucoup. Admirer quelqu'un, aimer s'intéresser à sa vie, mettons une carrière politique, vous aimez René Lévesque, vous avez l'intérêt de lire là-dessus, mm-hmm. Ça peut être sain, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment ce côté-là
À partir de où on considère ça comme étant de l'obsession?
Quand une personne perd des amis parce que c'est trop dans l'irréalité. Quand quelqu'un, ses contacts, commence à dire, voyons, on n'est plus dans... On parle juste de ça. Là, on ne peut pas juste parler de la personne qu'on admire. Donc, quand la fonction d'être ami, simplement, puis de jaser, puis à un moment donné, ça prend toujours de la place, c'est sûr que des fois, on peut parler plus de nos idoles, mais quand ce n'est que ça, c'est là. C'est quand le discours est plaqué tout le temps sur le même sujet. Moi, en tout cas, comme ami, je dirais à mon ami, écoute, j'observe ça, puis bon, je suis peut-être psy, là, je parlerais comme ça, mais je dirais, j'observe que ça te prend beaucoup de place. On dirait que j'ai le goût qu'on parle de nous aussi, tu sais. Quand on se voit.
Il y a un texto qui est entré. Est-ce que c'est normal d'avoir aucune idole? J'ai fait l'exercice, j'essaie d'y penser, puis on dirait que je trouve pas.
Oui, c'est normal. C'est ça que c'est un message que je voulais vous laisser. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire.
Parce que moi, j'apprécie des choses, mais de là à dire que ma vie va tourner autour de ça, moi, c'est zéro puis une barre. Non. J'ai pas ça en moi. Là.
C'est ça, puis t'es cultivé, tu vois plein de choses, t'écoutes plein d'affaires. Mais
ah, puis je trippe sur plein d'affaires avec beaucoup de passion. Là.
C'est ça, mais la passion, c'est pas nécessairement une idole, c'est ça. Donc, la passion peut être passionnée de plein de choses, mais l'idole, c'est vraiment que ça reste dans le temps.
Est-ce
ça reste plusieurs mois, plusieurs années.
Est-ce que tu peux idolâtrer ou admirer des proches? C'est-tu obligé d'être une figure publique ou un sport ou un... Tu sais, est-ce que je suis un peu débile de dire, mettons, que ben moi, je sais pas, j'admire mon père, j'admire mon frère.
Non, ça peut être un proche. Ça pourrait être un proche également, t'as raison. Donc, tantôt, on disait c'est une personne versus une équipe de hockey, mais la personne peut être connue ou pas connue. Mais si pour toi, c'est un idole, ton père, ton grand-père, peu importe, parce qu'il porte des valeurs que tu que t'apprécies, tu le trouves courageux, tu trouves ça inspirant, à ce moment-là, ça, comme Max, ça pourrait être moi, parce que là, tu sais, je suis plus vieille, puis ça pourrait être un idole.
Non, mais je vais poser des questions à Max.
Oui.
Max, on niaisait sur Machine Gun Kelly, puis pas, parce que, mais toi...
Ah, oh, je suis un intense,
toi,
là.
T'es très intense, parce que tu te contrôles mieux en ondes, parce que c'est ainsi, Machine Gun Kelly, musicalement, c'est un peu plus tranquille, mais... T'as combien de vêtements, puis de sacs, puis d'affaires à son effigie?
Plusieurs.
Ça t'a coûté combien jusqu'à maintenant?
Plusieurs centaines de dollars.
T'écoutes absolument tout ce qu'il fait, toutes ses collaborations. T'es allé en voyage avec tes parents dans le temps des fêtes. C'est quoi le détour que t'as fait?
On est allé à son café à Cleveland.
T'espérais-tu le rencontrer?
Ben, j'aurais aimé ça. Mais j'en ai plus. Tu sais, j'ai MGK, Linkin Park, certains pourraient dire que je suis assez intense aussi.
Mais tu défends sa musique même si tu l'aimes pas, là.
De MGK?
Oui.
Non, c'est que même si première écoute, je l'aime pas, je commence à l'aimer parce que je l'aime beaucoup.
Tu te l'imposes.
Tu sais, il y a toute mon histoire aussi de tatou de joueur de hockey, d'avoir acheté des centaines de dollars de cartes d'un joueur de hockey que... semi-connu, là. Et quand j'aime beaucoup.
Mais t'es diversifié, par exemple? t'as plusieurs...
Au moins.
C'est-tu la bonne nouvelle là-dedans?
Oui, non, mais c'est bon, il a le droit d'être passionné. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'il aime ça, puis ça nourrit quelque chose d'agréable pour lui.
Tu sais, Max, il a début vingtaine. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'estomper à travers le temps ou c'est vraiment un trait de personnalité d'être quelqu'un qui aime intensément comme ça?
Ça bouge, c'est drôle que tu dises ça. Il y a une mère de famille, elle était fan d'une série, puis elle disait, je sais pas si ça rapporte, j'ai deux enfants, puis j'aime une série, tu sais. Puis la psychologue lui répondait dans l'article, ben oui, mais c'est normal, c'est correct, on a le droit aussi. Donc, mais ça bouge, ça peut bouger. Ça peut être plus présent actuellement, puis là, dans 10 ans, j'ai moins le temps. Mais ça peut revenir aussi.
J'ai une fille dans ma vie, il va te répondre, il va y avoir plus de temps.
Je suis père de famille. Ouais.
Peut-être un jour.
Mais on le sait pas, mais ça peut revenir aussi. Tu sais, quand les enfants grandissent puis s'en vont, il y a des parents que leur sous-sol, il y a plein d'objets des Canadiens de Montréal, hein. Il y en a qui trippent canadiens, il y en a qui trippent Expo de Montréal à l'époque. Donc, on peut voir tout ça là, dans les maisons.
Caro, j'ai le goût de te poser une question parce qu'un peu plus tôt, on a jasé d'intelligence artificielle. Il y a une étude qui a été faite, je te résume ça rapidement, où en gros, ce qu'on disait, c'est que ChatGPT fournit des réponses plus empathiques, plus réactives que celles de professionnels formés à l'intervention en situation de crise. Puis en gros, ce qu'on dit, c'est que chaque fois qu'on a présenté des réponses aux problèmes de ces gens-là qui ont été évaluée dans le cadre de l'étude, bien, c'est celle de l'intelligence artificielle qui démontrait le plus d'empathie, de réaction, d'attention, de validation, contrairement aux professionnels qui devraient normalement nous aider.
En théorie, oui.
Tu penses quoi de ça?
Bien, ça me questionne. J'y crois, là. C'est sûrement vrai puisque ça a été défini. Puis on y pense. C'est sûr, j'en parle encore aujourd'hui avec quelqu'un de l'intelligence artificielle et la psychiatrie et les rencontres virtuelles. Et jusqu'où on va aller? J'ai de la misère, moi, à voir que si c'est pas un humain qu'on ressente l'empathie, puis, tu sais, cet état de crise-là, qu'on soit capable de le régler avec... Pour moi, ça se peut comme pas, mais je me dis...
Alors qu'il y a sûrement des professionnels qui réagissent de manière un peu mécanique.
C'est ça, probablement, oui. Puis il y a des professionnels qui sont fatigués, peut-être, une journée. Donc,
qui vont avoir moins le réflexe.
C'est ça,
le bon réflexe,
on n'est pas toujours égal non plus comme professionnel. Par exemple, le lundi matin, on est peut-être plus tranquille, puis le jeudi après-midi, tout va bien, puis on est plus proactif. Donc, ça me fait peur un peu, parce que je me dis, l'être humain, c'est l'échange entre l'être humain et qui est bon pour la thérapie, pour la rencontre du patient.
Collaborerais-tu avec une intelligence artificielle? Parce que ça, on le voit de plus en plus. Il y a des bureaux où carrément la première ligne de front, l'espèce de chatbot, va être une intelligence artificielle qui va permettre de faire une espèce de pré-tri,
comme
de mise
triage,
en contexte.
Bien, sûrement que je collaborerais pour des fins de recherche. Mais peut-être pas pour des fins thérapeutiques tout de suite, mais ça me questionne quand même. Je me dis, on est humain et on transige avec les émotions beaucoup. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, il me semble qu'il y a des limites
mais
avec la technologie.
Mais... Puisqu'on parlait tantôt des avantages, tu as quelqu'un dans ta clientèle qui, au beau milieu de la nuit, a une crise quelconque, est capable d'interagir immédiatement puis d'allonger le délai jusqu'au moment de te parler directement.
Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est au service de... On reste humain, qui traite un humain, puis on peut utiliser comme outil. C'est ce que j'aime dans ton exemple. Alors que je dirais pas aux patients, ne parle pas à ton médecin demain parce que tu as, tu sais, complète avec ton médecin, mais ça t'a aidé cette nuit pour l'attaque de panique, par exemple. Fait que ça pourrait être complété, je pense. Mais il faut une supervision, il faut que ça soit bien fait quand même. Mais c'est difficile à remplacer, je trouve, la rencontre humaine quand on est vraiment pas en télémédecine, mais dans le bureau, face à face. C'est dur à remplacer ce contexte-là.
Mais moi, Caroline Gagnon, psychiatre, je suis fan de toi.
Oh, mon Dieu!
C'est
la ligne que j'avais écrite, il fallait que tu me dises ça.
Oui, exactement. C'est la dernière.
Mais moi, je suis fan de vous, de l'émission. Je suis fan numéro un. Je vous écoute toujours. Hein. Dès que je peux, je vous écoute.
Arrête donc.
Merci de prendre le temps de venir nous voir. Puis merci d'être là pour nous autres aussi.
Ça
c'est fort
plaisir.
Apprécié. Fait que Caroline Gagnon, psychiatre, qui nous arrive toujours avec ces espèces de beaux sujets très champ gauche qui vous font réagir quand même pas mal. Côté circulation, Audrey?
Il y a des petits problèmes dans le coin de Val-Bélair, Henri IV Nord, à la hauteur de l'avenue industrielle. Sinon, Guillaume Couture dans les deux directions, hauteur de la route du président Kennedy. C'est pas mal tout pour l'instant, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, 88 971 1021. Texto.
Marceau le